La relation qu'établit la Mishnah, nous sommes en train d'étudier dans le cinquième chapitre, entre la manière dont la vertu de Chesed, provisoirement je vais de nouveau traduire en français par charité, est pratiquée d'après la législation que prévoit la Torah à ce sujet. Tout de suite, une petite parenthèse, mais nous avons vu dans un des cours précédents ce que le Maharal dit en parlant de la migra de Chala ou de Maaser, qui sont les législations auxquelles je fais allusion, pour la répartition des moyens de subsistance, c'est pas exactement chesed, puisque la Torah institue comme mitzvah qu'il faut le faire. À partir du moment où nous avons une mitzvah, et donc un devoir, il ne s'agit pas de chesed pur. Le Maharal avait dit, si vous vous souvenez dans l'expression hébraïque, que ces mitzvot de la chala et du maaser dont nous parlons, que je vais de nouveau redéfinir, elles sont etzel chesed, c'est-à-dire tout à côté de la vertu de chesed. C'est shayach remidat chesed. Mais la vertu de chesed, en tant que vertu de charité, ne peut pas être une obligation. Vous comprenez pourquoi? Parce que la charité est gratuite. Si j'ai un commandement de charité, c'est plus chesed. Puisque, à ce moment-là, j'ai une motivation d'un devoir à accomplir, d'une obligation à réaliser, et par conséquent, il ne s'agit plus de chesed pur. L'attitude, la conduite de la vertu de chesed, elle doit être absolument autonome, spontanée, désintéressée. Et le fait d'accomplir un devoir, c'est déjà un intérêt. Et donc, c'est que la conduite de la vertu n'est plus chesed pur. Ça s'appelle en hébreu comment à ce moment-là? Parce que j'ai une mitzvah de chesed, ça s'appelle... Alors, quel est l'autre mot en hébreu pour dire charité?
Tzedaka.
Et oui, dans Tzedaka, il y a le fait que la Midat Hadin intervient, que c'est une obligation. Il y a un devoir de charité. La Tzedaka, c'est la charité du devoir de charité. Mais le Chesed, c'est la charité à proprement parler, c'est-à-dire je ne dois rien, mais je le fais. Est-ce que c'est clair? Et effectivement, la conduite de Chesed, c'est donner à qui on ne doit pas. Mais si je donne à qui je dois, c'est pas Chesed, c'est Tzedaka. C'est un terme qui n'existe pas en français. Il faudrait, identifier simultanément et justice et charité. C'est-à-dire cette charité que je fais par Tzedaka, elle n'est que justice. C'est un devoir de charité. Le devoir de charité est donc Tzedaka, alors que Chesed est un peu différent. Écoutez, il y a encore une place là, dès qu'il y a une place, il y en a une là-bas, etc. Bon, alors donc, voilà de quoi il s'agit. Laissez-vous verser, c'est tout. À l'intérieur d'un problème général, que nous étudions l'autre part, le fait qu'il y a nécessité de subsistance pour pouvoir exister, et vous rappelez d'ailleurs les deux niveaux de la signification même de ce terme en français, sur le passage à la notion de kiyum. Pour que la bria, la créature, subsiste, il lui faut une subsistance. Et ce mazon, qui est la subsistance, à la limite la nourriture, mais tout ce qui nourrit la conscience et lui permet d'être présente à son monde, tout ce qui fait que la présence humaine est vivante, c'est pas seulement la nourriture matérielle, c'est tout ce qui sera nourriture. Vous vous rappelez des différents niveaux, l'echem, chalom, etc., vous vous rappelez? Eh bien, c'est pas là-dessus qu'on reviendra, mais simplement, si je veux dire, par allusion, tout ce qui fait la nourriture de la présence de moi à moi, de kiyum, et sans cette nourriture, la conscience tombe en syncope, disparaît, quitte le monde. Eh bien, ça, c'est de la part du Créateur un chesed. C'est-à-dire, non seulement nous avons été créés, fait exister, mais nous recevons ce qui fait notre kiyum et qui s'appelle le mazon. Alors, le terme plus général, schématique, ce sera la subsistance, la nourriture. Et cette subsistance, c'est toutes les valeurs qui nous nourrissent. Et ça veut dire deux choses à la fois. Premièrement, que ce n'est pas seulement le pain, il y a aussi les autres valeurs, qui leur a l'air de la doer et Adam. Ce n'est pas le pain seul que l'homme dit, il est lui qui a col Mosa Piachem, et le chalom c'est Mosa Piachem, et Adam. Mais ça veut dire, deuxièmement, que le pain, c'est une valeur. Vous vous rappelez, ne serait-ce que de l'expression que je vous avais citée en français, l'équivalence qu'il y a entre le goût de la vie et le goût du pain. Bon, je ne reviens pas sur toutes ces analyses, mais dans la mesure où on découvre déjà l'importance de ce fait, Il y a un problème à résoudre pour la perpétuation de l'existence, c'est le problème de la subsistance. Alors la Torah intervient en instituant un certain nombre de dispositions de chesed, mais puisqu'elles deviennent mitzvot, puisqu'elles deviennent obligatoires, obligations, c'est plus chesed pur, c'est de l'ordre de chesed. C'est ce qui s'appelle gemilut chassadim. Et en particulier, nous allons prendre le cas central de notre Mishnah, le Maaser. Si la dîme n'est pas donnée, soit à la tribu de Lévi pour ses propres fonctions, et étant donné que la tribu de Lévi n'a pas de participation à la vie économique, si la dîme n'est pas donnée, le Maaser chemique est donné au Hanimi, pour ceux qui n'ont pas de moyens de subsistance. Alors, ça signifie que ce type de société est en désordre par rapport au droit de recevoir le mazon du Créateur, et donc le rahav interdit. Bon, je ne reviens pas sur toutes les analyses précédentes. On voit donc l'importance de la catégorie de chesed comme médiation entre le Créateur et la créature. Et sur le niveau suivant, s'il n'y a pas chesed entre les créatures, alors il n'y a plus chesed du Créateur à la créature. Et donc s'il n'y a pas maaser, il n'y a pas mazon. Et il y a donc rahav. Pour le traduire en français, si dans une société donnée, il n'y a pas répartition de la subsistance à travers les catégories de chesed, dépassement de l'égoïsme, si vous voulez, eh bien cette société se trouve dans le cas que définit la Gemara de la manière suivante, je vous donne une paraphrase, pour elle, le monde ne valait pas la peine d'être créé. Et en renversant la phrase, c'est une créature qui ne vaut pas la peine qu'on lui crée un monde. Est-ce que c'est clair, puisque créer un monde, ça veut dire donner. Et une créature qui ne sait pas donner n'est pas du monde. Donc c'est pas pour elle que le monde a été créé. Et par conséquent, au niveau de la collectivité humaine, c'est à ce niveau que ces lois jouent, eh bien, dans la mesure où il n'y a pas de chesed entre les créatures, il n'y a plus chesed entre le Créateur et le monde. Puis, pour passer à la limite, on pourrait dire ceci. Un peu l'expérience que nous avons du monde, qui manque quelque chose, que ce que nous avons appelé le shefa ne suffit pas à nous nourrir, et je dis à tous les niveaux de l'existence, eh bien, ça vient donc de ce que dans le monde, il n'y a pas suffisamment de chesed, au niveau horizontal. Tout se passe comme si nous vivons dans un stade du monde où le shefa est diminué. C'est-à-dire ce qui passe du Créateur au monde pour faire que le monde soit vraiment un monde, et pas cette apparence d'enfer qu'il a le plus souvent. Et donc le shefa est atteint. C'est, si vous voulez, les canaux, les tinoros qui mènent le chesed de haut en bas sont atteints. De quoi ? Du fait que le chesed horizontal des créatures entre elles n'est pas en nous. Ça fait partie des principes de la foi, pour dire ça en français. Plus il y a de chesed en bas, plus il y a de chesed qui vient d'en haut. Et on a étudié, plus il y a de charité, et plus le monde est monde. Et dans quelle mesure le monde est monde ? Dans la mesure où le mazon est de chez nous. Est-ce que c'est clair? Puisque finalement, toutes les difficultés de l'histoire humaine tournent autour du problème de mazon. Et s'il y a mazon de Shefa, le haret natna et kiyevula, ça c'est biat amashiach, c'est yamot amashiach. Le haret natna et kiyevula, la terre donne sa récolte, la malédiction de Caïn cesse. Vous voyez que de quoi était atteint en punition Caïn après le manque de chesed vis-à-vis de Abel? Ça c'est un manque de chesed absolu, il a enlevé la vie. Ben, il ne donnait plus à manger. Eh bien, c'est que la récolte est atteinte. Vous vous rappelez du texte de la Torah? L'autosef, la suite. L'autosef, maïk mokamo.
Et kochah
la mokamo. L'autosef, adama,
adama,
la tef kochah, kelala. Les côtes de darda, ça se met en l'air. C'est-à-dire, la terre ne donnera pas sa récolte et elle te donnera des chardons, des artichauts. Mais enfin, c'est des chardons. Et il semble bien que un des enseignements principaux de la Torah, donc vous voyez tant au niveau de l'explication de l'état du monde à travers les récits historiques que de la législation, c'est de prendre acte de cela lorsqu'on se trouve dans un monde où le shefa est diminué. Chez les chassidim, la demande du shefa est une des prières les plus typiques. Je crois que vous avez entendu tous ces numéros des racines, Yushfar, Shefar Rav, Nicolas Alamot. Je crois que le Shefar ne soit pas arrêté dans les micradines intérieures qui chacun prélève le masque, et alors il arrive que finalement en bas il n'y a plus rien. Vous comprenez donc quel est le. Alors quel est la conduite qui empêche le Sefar, ça nous l'avons appris, comment elle s'appelle, avec les mêmes lettres, Pesar, ça, c'est un bilboule du Sefar. Zegorem, un bilboule du Sefar. Bien. Alors, à ce propos, donc, le Maharal nous a donné toute une série de citations pour mettre en évidence l'importance de Chesed. Alors, je voudrais reprendre un des exemples qu'il nous a donné dans les Midrash que nous avons lus, le cours de la dernière fois, dans le paragraphe sur la Mishnah du premier chapitre, et lire dans la page 28. Vous avez donc le midrash du Shochar Tov. Vous voyez où est-ce dans le paragraphe? Page 4. Je vous relis d'abord le midrash. Maskil l'Etan. Je ne reprends pas les suites de détails, mais simplement ce qui est resté en suspens, vous allez voir immédiatement. Maskil l'Etan, c'est le commencement d'un psaume, l'Etan. Chazé Hashem le'ola mashira. Je chanterai les chassadim, la charité de Dieu pour le monde. Amarti olam chesed ibane. Et le verset 2, j'ai dit. Le monde sera construit sur Chesed. Bon, vous rappelez de ce que nous avons déjà étudié à ce sujet. Alors le Midrash enchaîne sur ce verset en disant Amrou le Etan. On a posé la question à Etan, le psalmiste, celui qui a chanté ce psaume, Alma Aolam Omed. Sur quoi le monde repose? Et je vous rappelle, c'est quoi le monde tient debout, littéralement, Omed. Et je vous rappelle que la Mishnah, à propos duquel le Maharal, ici, dans cette page, cite ce Midrash-là, sur quoi le monde repose, la Mishnah enseigne que le monde repose sur trois choses. Al-Shlosha de Barim, Aolam Omed. À la Torah, à la Avoda, la Gemut Hasadim. Et donc ici, dans le Midrash, le fait que la réponse va être donnée sur Amar Lahem, à la Chesed, sur le Chesed seul, met en évidence que parmi les trois piliers du monde, Torah, Avoda, Gemut Hasadim, le Chesed a une importance particulière. Est-ce que vous comprenez bien cela? Je vais ouvrir ici une petite parenthèse sur la Mishnah. On a posé la question suivante, un des Mefarshim de Djerba. Elle a posé la question suivante. Pourquoi la Mishnah dit Allah Torah avec le Hea Yedia, Allah Avoda avec le Hea Yedia, et Al-Gimut Rasadim sans Hea Yedia? Est-ce que vous comprenez la question? C'est-à-dire, le pshat même de la Mishnah, ça consiste à dire le monde repose sur trois choses. La Torah, c'est-à-dire pas n'importe laquelle, si vous entendez en hébreu, c'est pas sur une Torah et n'importe qui a sa Torah, mais Ha Torah, Behea Yedia, ça veut dire la Torah, celle-là, pas une autre. Al-Ha'avoda, sur l'Ha'avoda, celle-là n'est pas une autre. Mais Gemut Hasadim, c'est Stam.
Mechut.
Alors tu pouvais dire Gemut Ha'Hasadim. Le Fiadim.
Le Hasad Shumata.
Non, ta réponse n'est pas valable. C'est-à-dire, on peut dire Gemut Hasadim avec le Ha'yadia. On dit Gemut Ha'Hasadim.
Non, mais c'est bien. Parce qu'il faut l'initiative de chacun, les bonnes actes. Ils ne sont pas définités.
Qu'est-ce qu'on entend par chacun? C'est là qu'il a répondu.
Non, il y a une Torah. Il y a une
autre. Non. Vous commencez toujours par le drash. Commencez par le pshat. Entendez bien là. Tout ce que vous dites n'est pas faux, mais ça ne répond pas à la question. Entendez bien la question. Al-Ha-Torah. Cette Torah n'est pas une autre. Al-Ha-Avoda. Cette Avoda n'est pas une autre. Mais Al-Gimilut Rasadim. Qu'est-ce que la question a comme objet? Quand on dit Ah Torah, ça veut dire la Torah d'Israël. Ah, Avoda d'Israël. Mais Gemut Hasadim,
c'est
universel. C'est ça. Ça veut dire que, et même là, paradoxalement, il y a une ma'ala supérieure à Gemut Hasadim parce que c'est Zeshayah Adam Aklali. Justement parce que c'est universel. Si vous voulez, en d'autres termes, lorsqu'une mère juive aime son enfant, c'est la même chose que quand une mère goy aime son enfant, là, il n'y a pas de différence. On va en tirer d'ailleurs une leçon importante. C'est-à-dire, Gemut Hasadim, c'est universel. Et c'est une raison de plus pour comprendre pourquoi le Midrash va non pas privilégier, c'est pas le mot, le Gemut Hasadim sur Torah de Avoda, mais va dire, même s'il y a Torah, et il faut, et même s'il y a Avoda, et il faut, mais s'il n'y a pas Gemut Hasadim, ça ne tient pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Gemut Hasadim a quand même, et malgré tout, une place privilégiée comme pilier du monde. Et alors justement, là, je voudrais utiliser ce que je viens de citer, de ce commentaire sur la Mishnah, pour éclairer un aspect des problèmes de la vie juive et des victoires juives. C'est que justement, lorsque on réduit ou on ramène le judaïsme, comme on dit, à Gemun Frasadim, eh bien on l'a évacué complètement. Mais toutes ces doctrines qui traduisent le judaïsme uniquement au niveau des valeurs universelles, finalement, à force d'universalisme, elles perdent complètement leur identité juive. Je vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire quand on dit, le judaïsme c'est la charité. Ben, c'est faux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est faux. La charité, c'est une valeur universelle. Le judaïsme, c'est comment concilier la charité et la vérité. Ce qui est une autre... Vous comprenez comment la deuxième remarque sort de la première. Parce que c'est effectivement authentique que le Mitzvah Sadim, c'est universel. Ramener la Torah à Mitzvah Sadim, c'est l'évacuer complètement. Donc je pense que vous avez compris le problème. Alors on revient à notre Midrash. Bon, quand on a demandé à Etana Ezrachi et Alma Olam Omed, sur quoi le monde repose, il répond à la Chesed. Et dans le Machal, le Ma'ad Avar Domé, et qui c'est chez Ayalo Avar Galim, un trône, qui c'est, littéralement c'est une chaise, mais ici ça veut dire un trône, chez Ayalo Avar Galim, qui a quatre pieds, et un de ses pieds, chancelant, très bien, celui qui t'en a, parce qu'elle est plus petite que les autres, Marasa, Natal Tero, le Somcho, Dieu a pris le propriétaire du trône a pris un caillou et il a soutenu le trône avec. Car Ayat Kadosh Baruch Hu, Kiriachol, ainsi, Dieu possédait, si on peut dire, qui sait que vous donne le trône de sa gloire, Mitmotet était chancelant, Hatch Samcho Akazvor, jusqu'à ce que Dieu l'ait consolidé. Ou Bema Samcho, et par quoi il a consolidé, Mechesed, avec la vertu de charité. Heve Omer, Amarti, Olam, Chesed, Ibane. Et c'est ça que veut dire donc le verset, j'ai dit, le monde se construit par la vertu de charité. Alors, la question qui était en suspens, c'est qu'est-ce que c'est que ces quatre pieds du trône? Donc dans le, pas l'image, mais enfin l'expression d'un contre le Midrash, il s'agit donc des vertus fondamentales sur lesquelles le monde repose, de qui c'est à Kavod, et qu'une d'entre elles est plus petite, alors ce qui fait que le qui c'est est Mitmotet, et quelles sont ces quatre vertus, et laquelle d'entre elles est plus petite, ou si bien on peut commencer par la deuxième question. Bon, on va voir toutes les hypothèses, mais il m'en faut quatre.
Tzedek Shalom.
Ah, Tzedek Shalom, tu penses à l'autre Midrash de... On pourrait partir de là. Ah, très bien. Comment tu fais ça?
Parce que... Ça va, toi, bien sûr. C'est qu'au début, Dieu a créé la terre avec plus
de joli.
Ouais. Et ensuite, il en a donné plus de merci, il a allégé par un peu plus de... Un peu de moins de... Enfin, il avait moins de 10.
Je n'ai pas su qu'elle faisait un mec de chaco.
Et alors là, c'est laquelle qui est branlante dans ces quatre termes-là
Quoi?
C'est laquelle qui est mitmotetet et tu vas voir que c'est la même réponse que lui, mais dans l'autre vocabulaire.
Emet.
Pourquoi? Tu connais la suite du Midrash?
Non.
Maa sakadosh natal et aemet, mais je crois ça.
Je fais où?
Donc c'est aemet. Et aemet c'est deux. Bon. Alors ça y en a compris. Bien, alors, nous allons voir des explications du Maharal, mais je vois que vous l'avez déjà compris. Alors Maharal dit ceci, je vais donner la référence, c'est le troisième chapitre de Netiv Unit Rasadim dans Netiv Otrolam. À la page 60 du tome 2 de Netiv Otrolam. Maharat Achesed, Shehu Yesod Aolam, de Yesod Kisek Evodo, Uba Midrash, et il cite ce Midrash. Alors, Maharat dit, Yesh le Dagdek. Et à propos de ce Midrash, il faut comprendre de façon précise, le Dagdek, la Maharachesed, Hu Somer, et Akise, Yoter Mikom Izotash, la Kabelohu. Pourquoi? C'est la vertu de charité qui soutient le trône plus que tout autre des attributs de Dieu. Verset Baramotem, c'est Yia Mishpat. Alors que le raisonnement, par la raison, si vous voulez, par la pensée humaine, l'Israël même, penserait que ce qui est le fondement du monde, qui est la justice, mishpat, son erratif. On penserait que c'est la justice qui est le fondement de l'équilibre du monde. Alors d'abord, il faut justifier ce postulat. Comment on pourrait le justifier? Avant tout, le terme qui est employé par le Maharal est très précis, mishpat. Et mishpat, c'est pas exactement din, et il n'y a de din que emet, c'est la même chose, din, emet et mishpat, mais avec une nuance. Et qui pourrait donner la nuance? Et lorsque nous traduisons mishpat par justice, quelle différence il y a entre le din et le mishpat?
Je ne mishpat, je l'emet et tout.
C'est juste. Et comment on dit ça en français? Pour comprendre le sens hébreu, vous pouvez me passer le sens hébreu. Quel est le premier sens de mishpat?
Le jugement.
C'est-à-dire la justice appliquée, la justice appliquée à la réalité. Non. Et bien, rappelez-vous la dernière mishnah du premier chapitre du Pirkei Avot. La mishnah que nous étudions là dit « Asosha devarim olam omed » à la Torah, dans la Avoda, la Géminus Rassadim. La dernière mishnah dit « Asosha devarim olam kayam » à la Emet, vers la Adim, vers la Shalom. Shenema, Emet ou Mishpat Shalom, Shiftu Bisharech. Tant que le Mishpat n'est pas un Mishpat Shalom, alors le Kifé Mitmoté. Et qu'est-ce que c'est un Mishpat Shalom? C'est un Mishpat qui est soutenu par Chesed. Oui, bon, alors je reviens plus en détail. Alors, Mishpat, c'est effectivement la justice appliquée à la réalité. Emet, c'est la vérité théorique de la justice. Au niveau théorique, la vérité. Et si on applique la vérité directement à la réalité, alors apparaît la mida tadine, qui est une mida terrible. La réalité sera toujours disqualifiée par la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Dès que vous confrontez une valeur de vérité avec la réalité, si vous jugez la réalité au nom de la réalité ne peut être condamnée. C'est clair? Et par conséquent, mishpat, c'est déjà le lien entre le Emet et la réalité du monde. C'est le jugement. Et c'est le jugement qui a pour objet de justifier la réalité. Je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse pour m'expliquer. Si la fonction du juge, c'est de condamner, la société en question est perdue. Vaïhi, binesh, fota, shoftim, vaïhi, ra'avare. Ça se relie d'ailleurs à notre Mishnah. C'est le premier verset du livre de Ruth. Hein? Et il arriva au temps où juger les juges. Alors il y a une famine dans le pays. Famine, galout et tout le reste. Hein? Quel rapport? Et parce que juger les juges, alors il y a une famine. Le Midrash explique. On ne demande pas aux juges de juger. C'est justement ça leur faute, si j'ose dire. Vaïhi, bimesh, faute à shoftim. Il arriva au temps où les juges jugeaient. Bon, les grammairiens nous diront, il y a ici une forme grammaticale qu'on appelle une redondance, machin ou casé. Non, mais si on lit le texte. Ce qui est mis en évidence, c'est que la fonction du juge, c'est de trouver la relation de justification entre la loi et la réalité. Si c'est simplement un fonctionnaire qui cite le code et qui dit tant de peine, c'est pas un juge, ça c'est un fonctionnaire. Ouais, vous comprenez? Ça c'est facile de dire la loi dit que tu auras tant. C'est pas un jugement, ça. Ça c'est une citation de la loi. Au niveau de la vérité. Mais ce qu'on demande, c'est mishpat. Est-ce que c'est clair? Alors, la formule qu'envoie la Torah, c'est Veit Dikou et Tatsadik, Veir Shiru et Tarasha. Et c'est pas, ils diront que le juste est juste et que le rachat est rachat. Veit Dikou et Tatsadik, Veir Shiru et Tarasha. Pour ça, on n'a pas besoin d'un juge. Veit Dikou et Tatsadik, ils chercheront les moyens de justifier au nom de la loi. Et alors, puisqu'il est tzadik, il est tzadik après le mishpat. Alors, ça veut dire, le pshat, les dico et tzadik, ils auront justifié le juste. Et c'est en cela qu'il est juste. Et si on ne peut pas justifier, alors c'est qu'il est rachat. Alors, une fois qu'on établit qu'il est rachat, alors c'est les hirshio et rachat. Et ils auront pris acte qu'il est rachat. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si j'ai exprimé ce que je voulais dire. La fonction du juste, la fonction du juge, c'est d'arriver à démontrer que l'accusé est innocent. C'est pour ça qu'on a besoin d'un jugement. Sinon, il suffit d'appliquer la loi automatiquement. Vous savez, il y aurait des machines à donner des jugements. Tu rentres une question et il te sort une réponse. Il n'y a qu'à lire le Shulchan Aruch. Avec le Shulchan Aruch, on peut condamner tout le monde à n'importe quel guéhinam. Il n'y a qu'à lire le Shulchan Aruch. Vous comprenez ce que je dis? Alors, en fait, quand une question se pose, il faut faire un mishpat. Et ce qu'on attend du chauffeur, c'est qu'il arrive à justifier. S'il ne peut pas justifier, c'est que c'est un rachat. Comment est la Mishnah? Est-ce que c'est clair? Donc c'est très important de comprendre ça. On ne confie pas la fonction de juge à quelqu'un qui a tendance d'être accusateur public. Parce que c'est très facile d'être l'accusateur. Il n'y a qu'à lire le code et demander qu'est-ce qu'il a fait au gendarme. Ah, il a fait ça à 20 ans. C'est pas un jugement, ça. Et n'importe quel geste de vie, quel qu'il soit, peut être condamné d'après le code. Si on connaît la vérité de la loi morale, n'importe quel chaïm, ça commence par chet. Le fait de vivre, c'est un rachat. Et alors, c'est parce qu'on demande du chauffet. Ce qu'on demande du chauffet, c'est d'être, c'est-à-dire on choisit les chauffetim chez les hommes de la Midat Arachamim. Donc je reprends le verset de Shoftim. Vaïe, Bimer, faute à Shoftim. C'est-à-dire cette catastrophe est arrivée quand les juges jugeaient. C'est-à-dire quand ils condamnaient. Vaïe, Rahab. Alors le Midrash intervient en disant, nous allons lire d'une autre manière pour comprendre de quoi il s'agissait. Dans cette attitude des juges. Et il dit, Vaïe, Bimer, faute à Shoftim. Ça veut dire qu'il arriva quand les juges étaient jugés, au temps où on jugeait les juges. Et c'est là que vient cette expression que les chrétiens ont reprise dans leur livre. Quand le juge disait à un plaideur, enlève la paille que tu as dans ton œil, le plaideur répondait, enlève d'abord la poutre que tu as dans le tien. Et ça nous fait comprendre quelque chose d'important. Quand est-ce qu'un juge accuse, au lieu de faire son œuvre de juge, c'est-à-dire de faire physique, je ne peux plus traduire justifié parce qu'en français ça a un autre sens. En français justifié, ça veut dire même quand il est coupable. Mais les hasdiques, ça veut dire démontrer en quoi il est sadique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et sadique, ça veut dire il est sadique avec la vérité, mais au niveau de la réalité. C'est-à-dire, encore une fois, je pense que c'est clair. Si je lis la perte d'identité du sadique au niveau de Torah Témé, il n'y a pas un sadique sur terre. C'est clair. Parce que le fait de vivre dans la réalité, ce n'est pas le fait de vivre dans le monde, d'exister dans le monde de la vérité. Et si je confronte la vérité et la réalité, c'est la réalité qui est disqualifiée. Il n'y a pas de doute. C'est ce qui a mené à tous les dualismes des grandes doctrines non-juives. C'est le statut naturel du monde, c'est qu'il y a un divorce entre la vérité et la dualité, d'où la vérité n'est pas de ce monde et toutes ces choses-là. Parce qu'on ne sait pas faire le mishpat. Le mishpat, ça veut dire la relation entre la vérité et la réalité, de telle sorte que, comme dit le verset, l'Iliko est un sadique. Mais je vais vous citer une phrase d'une star de la Tfila de Yamin Noraïm, des Totsi Laor Mishpatenu, vous voyez, Kadosh, des Totsi Laor Mishpatenu, c'est-à-dire que le Mishpat dévoile qu'il y a que du ça. Est-ce que c'est clair? Alors, le travail d'un juge, c'est un travail très difficile. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences et de savoir dire un tel sadique, un tel rachat. La loi impose de chercher d'abord s'il est sadique, après seulement il s'occupe de voir s'il est rachat. S'il ne peut pas justifier du prix d'intrasadique, mais quand il écoute d'abord, alors après, il s'occupe de voir s'il y a le prix d'intrasadique. Est-ce que c'est clair, ça? Alors, notre mélange dit, c'est, voyez, il n'est pas ta sortie. Ce rare, cette famille dont on parlait, c'est arrivé au temps où les juges étaient jugés. Et pourquoi ils étaient jugés? Parce qu'ils jugeaient, dans ce sens-là. Dans la relation entre les deux lectures. Alors, je pense que ça peut nous permettre de mettre en évidence un principe important. Pourquoi quelqu'un qui s'érige en juge condamne au lieu de l'abdique, comme nous l'avons dit tout à l'heure? Quelle est la motivation qu'il y a derrière? Elle est psychologique, mais c'est quoi? Parce que oui, en projection. C'est sa propre culpabilité qui le rend accusateur. Bon, j'insiste, parce qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est que la figure d'un dayan, d'un chauffet, selon la Torah. C'est Midat Arachamim qui est chargé d'appliquer la loi. Si on charge Midat Adin d'appliquer la loi, on est tous perdus. Vous comprenez? Par conséquent, la vocation du chauffet, on ne l'a choisi que chez les Kenim Ba'ale Arachamim. Est-ce que c'est clair? Alors, s'il arrive que quelqu'un se prenne au sérieux, ah, je suis juge, alors je juge, c'est une catastrophe. Et comment dit la Gemara à ce propos? Avant d'en faire un âge du mouchoir. La Gemara dit une formule très connue à ce propos. Que celui qui accuse, quelqu'un, c'est lui-même qui l'accuse. Comment dit la Gemara? Kol ha-posel, bemoum ha-posel. C'est-à-dire, celui qui dit que quelqu'un n'est pas saoul, pas cachère, c'est dans son propre défaut, de son propre défaut qu'il parle. C'est un peu ce que vous avez dit. C'est la projection d'une culpabilité qui rend accusateur. Non mais c'est vrai tout ça. C'est un piège.
C'est pas non plus un qui peut faire du moussa.
C'est vrai?
C'est pas non plus un
défaut. Exactement. C'est pas n'importe qui peut faire du moussa. C'est vrai que je vous dis.
Bon, merci.
C'est pas n'importe qui peut être dans le moussa. Et le premier qui a dit ça, et qui a dit que notre temps, plus personne ne sait faire du moussa, c'est le Hafet Raïm. Hafet Raïm a dit déjà, et de notre temps, plus personne ne peut être Tochaha. C'est la Tochaha, Baal Tochaha. Le Magid de Douvin a raconté une très jolie histoire, que je vous l'ai raconté un jour. On avait l'habitude d'inviter, vous savez qui était le Magid de Douvin, c'est un plus grand Baal Moussa. Un grand Magid. Et il allait de ville en ville, de village en village, faire des brachot. Un jour, il est arrivé tard, et en attendant, finalement, le rabbin de la ville, a fait la bracha à sa place. Et puis, entre-temps, le Magid est arrivé, il s'est assis parmi le Kahal, il a entendu quelqu'un faire du moussard. Il était stupéfait, parce que le Rav qui faisait du moussard s'est pris au sérieux. Alors, il accusait ses juifs de tous les péchés de la création, comme pour l'égoïsme et le rabbin. Alors, il s'est dit, c'est ça que je fais, moi. Et il était stupéfait. Alors, il a voulu chercher vous avez entendu une fois, un torara de moussa, c'est à faire frémir. Alors, aussi pêcheur que ça, je suis moi, quand on entend le moussa. Et il y a des citos qui se prennent au sérieux. C'est dangereux, la locuité. Ça démolit les gens. Surtout quand ils sont jeunes et qu'ils ne savent pas prendre ça avec humour. Mais bon, c'est un rabbin. Et en général, le rat pense à ceux qui ne sont pas dans la chine. Mais il accuse ceux qui sont dans la chine. J'ai jamais entendu ces sermons vendredi soir. Les choses sont désertées, les synagogues sont désertées. À qui on dit ça d'affaire ce qu'il y a. Et alors il s'est renseigné auprès de ses voisins, il a dit, dis-moi, ce rabbin, il a beaucoup de filles. Et oui. Et elles sont mariées, elles n'ont aucune entre elles. Alors le magide a fait une prière à Dieu, il a dit, mon Dieu, marie ses filles, qui sait de dire du mal de tes juifs. Bon, et authentique. Alors, on revient au problème. Effectivement, la Gemara dit que la possède de Mouno possède. Alors, vous voyez donc, quel est le raisonnement du Maharal? Il dit, bien évidemment, ça devrait être le Mishpat qu'on désigne comme étant le fondement du Kiyum Haolam, de l'harmonie du monde. Parce que c'est finalement, si un monde n'est pas géré, il n'y a pas une. Je vous mets un petit exemple, c'est parce que je sois de la pédagogie morale, mais enfin, ça doit être le soir. Lorsqu'un enfant fait une faute et qu'on le punit pas, donc il fait beaucoup plus de mal parce qu'il est complètement désorienté. Et ça veut dire qu'il se trouve dans un monde où il n'y a pas de règne. C'est Hoser Shifto son Ebeno. C'est-à-dire celui qui retient le bâton, ça veut dire qu'il a eu son fils. Vous comprenez ce que veut dire le verset. Et c'est cette réaction-là, c'est-à-dire un monde sans mishpat, c'est pas un monde. Et parce que ça veut dire que n'importe quoi peut être n'importe quoi. Et donc c'est le mishpat qui gère le monde. Et faites bien attention, mishpat, c'est pas la midat hadin. Si la midat hadin devait régir le monde, c'est le mot que je cherchais, alors que le midrash est cité, le monde ne pourrait pas être mitkayé, parce que la première fois, c'est toujours en éclat. Donc c'est le mishpat. On pourrait s'attendre à ce que ça le Mishpat. Alors le chidouche qu'il y a là dans cette question du Maharal, pourquoi le Midrash n'a pas parlé du Mishpat, mais a parlé de Chesed, c'est un chidouche qu'il faut comprendre. Ça veut dire le chidouche, c'est que même le Mishpat ne peut pas arriver à être le fondement du monde, il faut Chesed. Donc, nous avons déjà compris la réponse à une première question. Il y a quatre vertus fondamentales au monde, mais il y en a une qui est trop petite. Et tant qu'il y a un pied qui est trop court, tant qu'on ne soutient pas avec Chesed, le monde ne tient pas. Bon, on va un peu progresser. Quelles sont ces quatre vertus? On sait déjà que celle qui est trop courte, c'est Mishpat. Déjà, d'après la, Vous devez être la qualification du marin qu'on va avoir en détail. Alors, je vais vous donner la réponse, à moins que vous puissiez dire tout de suite, oui.
Est-ce qu'il n'y a pas déjà fait
ça? Non. Il y a Rahamim, j'ai dit tout à l'heure. Il y a Rahamim. Par exemple, le Midrash qui a été cité. Et Midrat Rahamim, c'est déjà dans l'ordre de l'aimer. C'est-à-dire, avoir Rahamim pour quelqu'un, c'est pas chesed. Avoir Rahamim, ça veut dire que ça rentre dans l'ordre de la norme des obligations et des devoirs. Je veux dire que avoir Rahamim vis-à-vis de quelqu'un, on pourrait ne pas avoir. Mais il y a en lui un mérite suffisant pour qu'on ait Rahamim. Tandis que chesed, c'est gratuit, gamour. Tandis que mishpat, c'est Rahamim. Mais chesed, c'est au-delà. Ça veut dire, Rahamim, c'est encore trop court pour que le kissé soit kayam. Et le marat va l'expliquer. Simplement, déjà, parce qu'il ne va pas le faire dans son pirouche, identifier ses différentes valeurs. Bon, on va retourner au fondement même de la Torah. Il y a donc les midot des trois avotes, et puis celle qui s'appelle Mishpat, et qui est la prérogative du Mashiach. C'est la quatrième, donc c'est la mida d'Abraham, la mida d'Israël, la mida de Yaakov, et puis, que vous avez d'ailleurs dans le verset, la quatrième c'est le Mishpat. Ça nous renvoie à toute l'identité de David Ameler. David Ameler était le Meler, donc le chauffeur. Et puis d'autre part, il a été le chassid. C'est toute la mida de David Ameler qui doit mener au Mashiach. Mashiach ben David, qui est décrit toujours par les prophètes, celui qui saura donner le jugement. Celui qui saura donner le jugement, c'est le Mashiach. C'est-à-dire, non, c'est pas sa seule fonction, mais je veux dire, c'est sa prérogative. Le vrai jugement qui sauve le monde, c'est la manière du Mashiach. Et si vous voulez, la prérogative du Mishpat, c'est la mida de Malchut, donc du Meler, c'est la mida de Shevet Yehuda, c'est la mida donc de David Ameler. Mais tant qu'il y a Mishpat, dans sa dureté, bien que ce soit Mishpat, parce que du Mishpat, le Mishpat au moins sauve les Tadikim. Avec la mida Tadim, personne n'est sauvé. Hein? Un ou deux par génération. Mais, je me réfère à une Gemara. Mais avec le Mishpat, au moins, les Tzadikim sont sauvés. Mais avec le Mishpat, les Rshaim sont perdus. Et leur Olam n'est pas Kayam. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, il faut ajouter Chesed. Or, la Mida, la Midat Malchut, c'est Mishpat. On appelle Din Rafé. Opposé à din caché, le din rafé, mais c'est quand même din. C'est mishpat. Alors, il faut ajouter chesed de telle sorte que, leur lame soit kayam. Dans l'histoire des patriarches, c'est précisément ce qui se cherche entre Joseph et ses frères. Et vous voyez que, d'abord, l'amida, qui a finalement sauvé Joseph, dans le procès que le derrière, des frères de Joseph, c'est la Midat Hadin. Par contre, ils veulent faire Mishpat. Celui qui mérite, mérite. Celui qui ne mérite pas, ne mérite pas. Ça, c'est Shevet Yehuda. Alors que la Midat de Yosef, qui est Yesod, c'est l'étape de Tchedek, c'est déjà de l'ordre de Hasidim. La Midat de Yosef, c'est... On va essayer de sauver tout le monde. En Égypte, même en Égypte. Vous voyez ce que ça veut dire dans le récit. Il y a encore des âmes à sauver, comme dit l'égoïne. Eh bien, on va aller là où ils sont les sauvés. Ça, c'est Yosef. Tandis que Yehuda, c'est, le jugement est fait, c'est fini. Ceux qui sont disqualifiés, c'est disqualifié. Ceux qui sont sauvés, sont sauvés. Yehuda, c'est dur. Vous voyez, au début, Joseph est condamné. Et puis, en fin de compte, qui va décider de sauver Joseph? C'est Yehuda. C'est-à-dire, tant que Chesed ne s'ajoute pas à Mishpat, vous avez compris ça? C'est un peu de remède, mais enfin je pense que c'est clair. Donc cette mida de Mishpat, c'est la mida de Mashiach, donc la mida de Meler, donc la mida de la tribu de Yehuda, donc la mida de David. Et on voit que David déjà rassemble ses demi-dieux. Et le Mishpat et le Chesed. Lisez le Kilim, vous voyez, toujours l'un et l'autre. Et puis en fin de compte, le Mashiach ben David sera sommaire Chesed la Mishpat. Et ce qui s'appelle Mishpat Shalom. C'est la fin de la Mishnah du Kilim. Tu veux dire qu'il y aura quand même des... Mais la Gemara fait tout son possible dans cette Gemara pour sauver tout le monde. C'est un père Chalek. Elle fait tout son possible pour sauver tout le monde. Et au fond, c'est un peu une explication de... Bien que ça ne soit complètement mystérieux, incompréhensible. Pourquoi le Mashiach tarde tellement? Parce qu'il voudrait bien sauver tout le monde. S'il avait le droit de faire un tri, il y a longtemps que le tri aurait été fait. Il y a un peu de ça. Et quand la Mishnah dit qu'il y en a quatre qui ont parole à ma part, la Gemara les reprend un par un pour essayer de les sortir de l'Uéinam. Bon, tout ça, ça nous est effectivement impossible à identifier. Enfin, les perspectives nous sont données de façon très, très claire. S'il s'agissait de sauver que les justes, il y a longtemps que ce serait fini. Abraham, Isaac, Jacob, Zanam. L'égoïme, et bien l'égoïme. Tandis que le quatrième attend que l'égoïme rejoigne. Ils n'arrivent pas à rejoindre. Alors ça prend du temps. Comment ? Bon, c'est comme disent les prophètes. Ils reviendront jusqu'au dernier. Et ça veut dire le dernier qui revient. Les autres. Bon, alors voilà donc la question que pose le Maharal.
Sinon, c'est trois dossiers.
Non, c'est les midot que les patriarches ont installés. Bonjour, la ranotel, chez Yé Amishpat, sommeil Hakissé. Chez Aré Hakissé, ou Chayar, et la Mishpat. Ça, c'est très joli. Quand on dit Kissé, c'est Kissé Amishpat. Aval d'Abarzé, qui a Olam Yafchar la Hamod, des Minat Amishpat. Mais voici ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde ne peut pas être fondé sur la Mida du Mishpat, l'Ifna Kadosh Baruch Hu devant Dieu, Asher Medak de Kehut